T'es qui toi? Salut toi. Moi je suis la vie, la joie qui emplit ton cœur de lumière jaune, rouge, bleu et amour. Dis, c'est comment la couleur de l'amour? C'est la couleur de ton cœur? La couleur que tu respires les jours de bonheur? C'est la couleur qui te fait vivre et aimer, rire et chanter? Dis, tu fais comment pour voir la couleur de l'amour? Tu fais un grand sourire à la vie et elle te l'enverra. Dis, c'est qui la vie? C'est moi, c'est toi, c'est tout ce que tu verras. Salut toi. Toi, solitude. Moi, Virginie, 17 ans. Solitude qui à la fois m'attire et me fait peur. J'aimerais te remercier pour tous ces moments de bonheur où, grâce à toi, j'ai appris à me connaître, connaître un peu le monde qui nous entoure et à vaincre certaines de mes angoisses. J'aimerais aussi te dire de t'en aller. Te dire qu'il y a des jours où je n'ai pas envie de discuter avec toi. Par peur d'y être contrainte toute ma vie. Oui, toi, malgré tous les effets bénéfiques que tu produis sur moi, tu m'effrayes. De quoi j'ai peur? C'est simple, j'ai peur de n'avoir que toi pour partenaire pour la fin de ma vie. Mais je tenais aussi à te dire que c'est grâce à toi que je survis. Tu es ma liberté, mon oxygène, bref, une partie indispensable de ma vie. Je sais, c'est étrange de dire « va-t'en à quelqu'un qu'on aime » ou d'aimer quelque chose de dangereux. Et voilà, c'est moi, ma vie, ce que je ressens.
Au-dessous du pont, juste en dessous du pont, il y a des poissons nageant dans la rivière. Au-dessus du pont, juste en dessous du pont, il y a des oiseaux voletant dans l'air. Et puis sur le pont, juste assis sur le pont, il y a Marie et il y a Jean-Pierre qui parlent d'amour et de papillons, se tenant la main sans en avoir l'air. Qui parlent d'amour et de papillons comme firent avant eux d'autres amoureux. Au-dessous du pont, juste en dessous du pont, les poissons sont morts, ils ont le ventre en l'air. Au-dessus du pont, juste en dessous du pont, restent les corbeaux croassant dans l'air. Et puis sur le pont, défilant sur le pont, et marchant au pas, il y a des militaires. Pense à Marie qui est si jolie, ils aimeraient mieux ne pas faire la guerre. Pense à Marie qui est si jolie, ils sont malheureux comme d'autres avant eux. Au-dessous du pont, juste en dessous du pont, il n'y a plus rien, même plus de rivière. Au-dessus du pont, juste en dessous du pont, il n'y a plus rien, le ciel est un désert. À la place du pont, juste à la place du pont, il y a un trou et puis un tas de pierres. Et pas loin de là, l'enfant pleure tout bas, il n'a rien compris, il ne sait pas quoi faire. Et pas loin de là, l'enfant pense tout bas qu'un jour un autre pont il reconstruira.
Elle était tendue, les yeux vides, les larmes ont noyé le soleil de l'enfance. Désormais, les oiseaux noirs de la tristesse de leurs ailes ont frôlé son âme. Depuis, l'unique dessein de son être n'est plus que de s'endormir, bercé par la mort libératrice. Personne n'a jamais entendu son cri, celui qu'elle hurlait en silence, torturée alors qu'elle vacillait lentement dans le gouffre sans fin du désespoir. Jamais elle ne rencontra cette main qu'elle désirait si ardemment tendue vers elle et qui aurait prouvé qu'elle existait. Elle ne rencontra que le mur de la solitude et s'y brisa en mille poussières.
Tu n'as plus peur de rien quand tu sens dans tes mains l'amour. Tu n'as plus peur de rien quand tu sens dans tes mains l'amour.
Tu n'as plus peur de rien quand tu sens dans tes mains l'amour. Tu n'as plus peur de rien quand tu sens dans tes mains l'amour. Tu te sens comme une hirondelle qui déploierait ses grandes ailes et s'en irait vers l'arc-en-ciel comme un ange vers l'éternel. Et tout les gens aux alentours auront beau crier au secours, tu fermes ta porte à double tour pour pouvoir l'amour. Tu n'as plus peur de rien quand tu sens dans tes mains l'amour. Tu n'as plus peur de rien quand tu sens dans tes mains l'amour. Tout te semble merveilleux, tous les châssis, tous les les essieux. Tu n'as même plus à t'inquiéter pour les impôts et le loyer. Y a même plus besoin de se regarder. T'as juste une autre à regarder qui t'emmènera vers le chemin que vous prendrez main dans la main. Mais elle est partie et la fête est finie. Tu t'envolais au septième ciel, on t'a brûlé tes jolies ailes. Même si l'amour s'en va, s'en vient, tout a un début et une fin. Et le soleil poursuit la lune entre des astres et infortune. Mais j'y croirai toujours, je croirai toujours en l'amour, qu'importe les saisons, qu'importe la raison. Mais j'y croirai toujours. Je croirai toujours en l'amour, qu'importe les saisons, qu'importe la raison. Et j'y croirai toujours, je croirai toujours en l'amour, qu'importe les saisons, qu'importe la raison. Et j'y croirai toujours, je croirai toujours en l'amour, qu'importe les saisons.
Moi, Laure, 17 ans, j'ai envie d'écrire une lettre à l'indiscrétion. Cela peut te paraître paradoxal de me dévoiler tout en t'écrivant. D'ailleurs, ça l'est. Mais ça peut te supprimer ou du moins te minimiser. Il me semble que la difficulté que j'ai à me confier à quelqu'un que je méprise en vaudra la peine. Sans tenir compte des sentiments de celui que tu agresses, tu t'immisces en eux et tentes de leur sentirer ce qui peut être utile ou qui satisfait ton besoin de sentiments que tu ne peux ou ne veux pas avoir. Toi, l'indiscrétion, par l'intermédiaire de personnes plus ou moins conscientes de ta présence, tu recherches le malheur, le bonheur, la douleur, le vrai, soi-disant. Parfois, tu fais croire à des buts religieux ou spirituels, tu tentes de me persuader que tu es utile à moi et à tous ceux qui entendront ou liront ce que je dis. Je n'ai rien contre les secrets que je confie à quelqu'un que j'aime et qui m'écoutera avec attention. Toi, tu vas au fond de moi et tu rejettes ce que tu ne juges pas utile sans chercher à savoir ce que je pense.
Je suis tombé amoureux de Nicole. Elle jouait du rock'n'roll. Elle balançait son bassin d'arrière en avant dessous sa robe orange et des 16 printemps. J'ai tout de suite su et vu qu'elle allait m'avaler. Elle me suscitait le suicide de mes idées. Puis-je quelque chose pour vous? Je demandais au bout d'un certain temps, pluvieux et plus ridé. Suis-moi, pense-moi, aime-moi, a-t-elle commandé. Et une étrange sensation m'envahissait, comme si je voyais le mal qui la pourrissait. À ce moment-là, je sus qu'elle avait mal au cul. Voilà, c'était bien ça, c'était à ce moment-là que j'ai su qu'elle avait mal au cul. Elle posa son regard lourd sur le mien fragile qui l'a soutenu avant de gagner la ville. Waouh ! Nous communions jusqu'à la chambre de l'hôtel, c'était dimanche.
L'histoire de Nicole dans un petit moment. Mais tout de suite, j'ai envie de vous lire le texte de Caroline, 17 ans. Elle a envie de parler à la bougie. Et ce sera l'ultime texte de ces paroles de jeunes qui écrivent leur monde et qui nous disent que c'est aussi leur vie après tout. Ces jeunes qui ont confié leur texte, de textes écrits à leur père, leur mère, leur frère, leur sœur, leurs parents, à la société, à la vie, à la mort, ces textes qu'ils ont confiés à Franck Levallois et à Jean-Daniel Hostetler, ces hommes qui ont décidé d'accompagner ces jeunes dans les écoles techniques et les gymnases de la région lausannoise, aumôniers auprès d'eux. Ces textes qu'il a réunis dans ce livre qui s'appelle « C'est aussi ma vie après tout », publié aux éditions Ouverture. Alors Caroline, 17 ans, écrit à la bougie. La bougie faisait auparavant partie de ces objets anodins auxquels je ne prêtais pas attention. Ainsi, celle qui traînait sur ma terrasse n'avait accroché mon regard que par un concours de circonstances. Une force mystérieuse m'avait poussée à lever la tête vers elle afin de fuir un travail ennuyeux. J'avais commencé à l'observer. Elle était couchée sur le côté, partiellement déformée par les rayons du soleil. Sur ses flancs se distinguaient juste de longues traînées de cire identiques à des larmes. Cette bougie, je me souviens encore, avait atterri sur mon balcon parce qu'après l'avoir longuement utilisée un soir, je l'avais estimée encombrante. Je l'avais abandonnée sans scrupule, oubliant l'utilité précieuse qu'elle m'avait apportée. Je l'avais condamnée à fondre inexorablement sous la chaleur. Je n'avais donc plus droit au soupir quand on me témoignait une pareille insensibilité, ou plutôt une telle indifférence. J'avais le sentiment d'être l'intruse, de ne pas appartenir au même monde que ceux que je côtoyais. Mes amis ne comprenaient pas toujours mes attentes ou ma vision des choses. Et même lorsque c'était le cas, il suffisait qu'ils trouvent le bonheur que je me réveille un matin avec un visage abattu pour qu'ils m'ignorent. Cela avait toujours été ainsi dans ma vie. J'aimais mes amis et je croyais être aimée, mais je devais les lasser ou définir bizarrement l'amitié puisque je n'ai jamais pu ou su les garder vraiment. Je les avais perdus, les uns après les autres, comme victimes d'une malédiction. J'avais pleuré et j'en étais arrivée à la conclusion qu'on s'était lié à moi pour ce que je pouvais apporter ou apprendre, pas dans un but plus louable, et que dans ma naïveté, j'avais aveuglément cru en l'amitié. J'étais un peu comme la bougie qui aurait tout donné pour protéger ses proches de l'obscurité, du noir de leur existence, mais je risquais le rejet une fois le jour revenu dans leur vie. Évidemment, mon caractère versatile en a aussi déçu plus d'un. Je suis rarement parvenue à contrôler mes colères ou mes accès de haine. Quand il s'agit de tristesse, je maîtrise chaque fibre de mon corps. La plupart de mes connaissances me décriraient comme une fille pleine de vie et enthousiaste, sans imaginer une seconde que cet aspect jovial n'est peut-être qu'une illusion. J'ai appris au fil des années les déceptions et les problèmes s'accumulant, à cacher ou même à nier ma peine. J'ai bien eu quelques confidents, mais cela s'est souvent retourné contre moi. Voir mes secrets devenir des sujets tabous ou des nouvelles publiques m'a amené à juger le silence préférable. Comme la bougie qui, malgré ses apparences compactes et solides, devient liquide à haute température, eh bien moi, gamine, aux airs heureux, je laisse tomber mon masque dès que je m'éclipse du regard d'autrui. Je trouve un visage frappé par l'incompréhension ou la solitude. Bien sûr, j'aurais pu effacer ces chagrins de ma vie, de ma réalité. C'est vrai, j'aurais pu continuer mon rôle de personne épanouie, autant pour les autres que pour moi-même. Mais comment étouffer ce cri de fureur, cette envie de tout griffer, de déchirer? J'ai envie de mordre, de blesser, de frapper, de hurler. Oui, comment détruire cette rage qui étourdit et cette colère qui assomme? J'aurais voulu apparaître sous mon vrai jour. Certains m'ont accusé de jouer les martyrs, d'autres d'exagérer l'expression de mon désarroi. Les encouragements ne s'adressaient-ils donc qu'aux malheureux qui remontent la pente? Une personne dont le sourire habituel goûte à la déprime aspire peut-être en vain à du réconfort. Elle sera bêtement perçue comme apte à se débrouiller par elle-même et enfoncée dans une solitude et un silence qui lui pèseront à chaque instant de sa vie. Les points communs que je me reconnais avec une simple bougie sont absurdes. Moi, être humain ou intruse parmi les êtres humains? Ah, pourquoi cette sensation d'exclusion me harcelerait-elle? Pourtant, ma sensibilité, ma fragilité, la facilité avec laquelle je souffre, mes faiblesses, mes défauts, correspondent bien aux attributs de n'importe quel autre habitant de cette planète. Non, je ne suis pas comme une bougie. Les similitudes que j'ai décrites n'ont aucun sens. Je deviens folle. Ou bien, je le suis déjà. J'ai mal à la tête à force de tourner ces interrogations dans ma tête. Oui, je suis folle. Je délire et je n'ai rien à faire ici. Je ne suis comme personne. Je ne suis pas comme une bougie. Souvent, à cause du vent, d'un courant d'air, la flamme des bougies vacille. On la voit qui tremble, qui pâlit, on suppose qu'elle va s'éteindre, lentement, doucement. Quand cela se produit, il nous suffit de craquer une allumette et faire revivre le feu. Il n'y a rien de plus simple. Ce geste si naturel d'ailleurs ne demande même plus d'attention particulière quand on l'exécute. Une bougie s'éteint, on la rallume, point à la ligne. Mais quand c'est mon âme qui chancelle, mon esprit qui tremble, mon corps qui vacille, quand je suis prête à m'effondrer, à partir sans laisser d'héritage sur cette terre, il n'y a rien qui puisse me secourir et m'insuffler la force de me relever. Si je me laisse aller, si un dernier événement vient m'achever, je dois puiser seul le courage de rallumer mon envie de vivre. Et je sais que si je décide de m'éteindre, ce ne sera pas pour une durée éphémère. il ne suffira pas d'un. Tac. Pourtant, cette perspective, bien qu'effrayante, parce qu'inconnue, me semble de plus en plus irrésistible. Serais-je aussi aisément remplaçable qu'un cierge ? J'espère, dans mon orgueil, que non. Si je dois mourir, j'aimerais qu'on songe encore à moi. Je souhaiterais même plus, souhait peut-être utopique. Je souhaiterais qu'on me regrette, qu'on réalise qu'au fond, on tenait à moi et que comme n'importe qui, j'avais le droit d'être aimé. Je voudrais que tous ceux qui m'ont fait du mal culpabilisent et que les remords les rongent autant que la douleur m'a rongé. Je crois savoir ce qu'il me reste à faire. Il est insensé que je reste ici à me torturer davantage et qu'on ne me raconte pas que l'existence me réservera de bonnes surprises. J'en ai attendu, j'en ai eu, mais accompagné d'un malheur bien plus grave. Oui, je sais ce qu'il me reste à faire. Il ne faut pas forcer une bougie, las de briller à illuminer encore son entourage, sans illuminer sa propre vie d'abord. Il ne faut pas exiger d'une bougie fatiguée qu'elle s'efforce encore à resplendir. Il vaut mieux la laisser s'éteindre. Mais avant cela, j'irai chercher ma bougie. Elle mérite peut-être que d'être ainsi laissée. Elle mérite peut-être mieux que d'être ainsi laissée sur une terrasse banale. Je la poserai soigneusement sur mon bureau, bien en évidence.
Je me souviens du cri de la première fois. Je montais à Paris afin de tirer les rois. Papa gardait la terre. Maman était en haut, grignotée par les vers et par les escargots. Je vidais mon trop-plein, courant dans la cité. Mon phare était éteint, où j'ai pu le fourrer. J'avais une envie de me broyer dans le noir, détresse dans les cheveux. J'attendais le hasard. Épiphanie, ça se fait une fois par an. Épiphanie, ça fait plaisir aux enfants. J'ai crié, j'ai rien fait avant d'être assommée. Je me suis réveillée, debout et enchaînée. Je ne pouvais bouger et les trois hommes riaient sur leur visage grêlé. Beaucoup de nuages de lait. Ils ont déchiqueté mon pull au vert orange. Nous les hindous on est, toi tu seras le Gange. Ils m'ont dit que les canards c'était des signes d'état. Ils voulaient que je me marre, mais c'était pas marrant. Épiphanie, ça se fait une fois par an. Épiphanie, ça fait plaisir aux enfants. Ils m'ont déshabillé, j'étais comme un enfant, nu comme dans l'été, quand je nage dans l'étang. Et ils m'ont caressé, tout mon corps en bavant, comme quand papa changeait mes couches étant d'enfant. Et ils m'ont demandé si ça ne me gênait pas, de plaisir je n'avais, mais ça ne me gênait pas. Je n'ai pas osé leur dire, ils se seraient moqués de moi. Voulaient me faire plaisir, mais n'y arrivaient pas. Je leur ai juste dit tout bas, et se sont mis tout nus. Ça ne m'impressionnait pas, j'en avais déjà vu. Épiphanie, ça se fait une fois par an. Épiphanie, ça fait plaisir aux enfants. Il y en avait un qui était tout chauve et maigre lait. J'ai pleuré car c'était comme un mort qui mourait. On lui avait ôté ses organes génitaux. Moi je les conservais dans de jolis bocaux. Le soir quand je m'endormais, seul je les regardais. Ma maman pelliguait. Voilà ce qu'en restait. Alors moi je pleurais et mon pouce je têtais. Ainsi ce maigre et laid, ce garçon m'attristait. Et c'est avec j'ai tout accepté. Ils m'ont désenchaîné et m'ont laissé par terre. Les rois m'avaient tiré, mais la fève fut amère. Et si je fais l'amour encore bien des fois, je me souviens toujours du cri de la première fois. Épiphanie, ça fait plaisir aux enfants. Épiphanie, ça se fait une fois par an. Épiphanie, ça fait plaisir aux enfants.
Très, très belle chanson des Épis Noirs, interprétée par Manon Anderson, écrite par Pierre Lauric. Pour terminer ce remue-ménage aujourd'hui, il y aura encore de la musique, des chansons de femmes, en attendant de retrouver à 19h l'agenda de Marjolaine. Mais juste avant de nous quitter, je voulais juste vous rappeler que ce livre, donc les textes que vous avez entendus tout au long de cette émission, sont tirés du livre qui a pour titre « C'est aussi ma vie après tout », publié aux éditions Ouverture. Ce sont les témoignages d'une centaine de jeunes rassemblés présentés par Franck Levallois et Jean-Daniel Ostetler, tous les deux aumôniers dans les gymnases et écoles techniques de la région lausannoise. Je vous rappelle qu'on se posait la question, il faut relever le défi de donner la parole aux jeunes, c'est accepter qu'ils parlent, mais bien sûr aussi, quand on les entraîne dans cette aventure, il faut aussi prendre un risque, c'est-à-dire le risque qu'ils soient entendus. Alors j'espère que cette humble émission aura contribué à ce que vous entendiez la parole de ces jeunes. Ils étaient quelque 300 au départ à avoir été invités à l'aventure de l'expression. Bien sûr qu'on n'exigeait pas d'eux une forme littéraire et travaillée, peut-être vous l'auriez vous-même ressenti, mais c'était surtout leur offrir un espace d'écriture libre avec ce que cela peut sous-entendre, bien sûr d'expression brute, parfois un peu inhabile. Et je vous rappelle qu'ils répondaient à cette question: qu'aurais-je envie de dire du plus profond de moi-même à... Et nous avons découvert ce soir ce qu'ils disent, ce qu'ils ont envie de dire à leur père, leur mère, leurs parents séparés souvent, leurs frères, leurs sœurs, à la société, à l'armée, à... Bref, à la société. Et puis, parler aussi de leurs rêves, ce qui leur reste à vivre. Et parfois, leur désir de mort, parce que cette société ne leur convient pas du tout. Et ils ont l'impression qu'ils n'ont plus qu'à se conformer à l'image de la bougie qu'on met de côté, parce qu'elle a suffisamment brûlé. Alors voilà, c'était un défi qu'ont relevé finalement tous ces jeunes. C'est des jeunes qui sont donc en formation dans un gymnase ou école technique de Lausanne, qui ont eu le courage de sortir du non-dit, de s'en libérer. Ils ont écrit, ils ont peint aussi, et le livre est tout le long parsemé de peintures magnifiques, de dessins qu'ont fait ces jeunes en même temps que leurs lettres. Et tout ça, c'est sans prétention, mais surtout celle très exigeante de s'exprimer simplement avec leurs mots, leurs couleurs en l'occurrence aussi, et de laisser un peu jaillir leur vérité, en sachant que, bien sûr, c'est toujours qu'une petite partie de la vérité, qu'elle est relative et qu'elle évolue, sûrement qu'elle évoluera avec eux, quand peut-être plus tard ils reliront ce qu'ils ont écrit. Ils seront surpris de voir ce qu'ils ressentaient au moment où ils l'ont écrit, c'est-à-dire des jeunes principalement entre 17 et 19 ans. Alors finalement, des 300, 100 textes ont été sélectionnés par un groupe de jeunes eux-mêmes qui se sentaient très concernés par cette aventure et qui ont essayé de se reconnaître le mieux possible dans les mots écrits par leurs amis. Alors, Patrick Levallois et Jean-Daniel Ostetler les ont remerciés d'avoir accepté de se lancer dans cette aventure. Nous les remercions aussi pour leur authenticité. Et avec eux, eh bien, nous espérons que le risque qu'ils ont pris, eux, encouragera d'autres à oser se dire là où c'est important de le faire, parce que oser, c'est vraiment grandir, devenir, et ça fait du bien à ceux qui entendent, même si parfois c'est difficile à entendre.
Genoux écorchés dans la cour, je barbouillais de mots d'amour. Je tirais ma jupe sur mes vernis pour pas faire voir j'avais grandi. Je faisais pousser dans mes
Catherine Lara dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8, et elle reste avec nous encore pendant quelques minutes.
Je dors avec, j'en rêve la nuit. Ils sont ma mec, ma seule folie. Quand je les vois sous toutes leurs facettes, taillées en rose ou en navette, j'ai comme un frisson dans le dos. C'est mon point faible, c'est mon credo. Faire